Escalade. 100.9.
Parlons psycho. 30 minutes pour aborder des questions d'éducation et de psycho. Bonsoir à tous, c'est Axel Jacquemont dans Parlons Psycho. Le bien-être au travail, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Le bien-être au travail est devenu l'une des principales préoccupations des Français ces dernières années. Selon le baromètre 2018 de la santé au travail, plus des deux tiers des salariés et des dirigeants placent la prévention du stress et des risques psychosociaux dans le top 3 des priorités en matière de santé au travail. Ainsi, 44 salariés sur 100 souffrent de stress et plus de 3 millions d'actifs seraient menacés ou victimes de burn-out. S'il s'agissait auparavant de réduire la pénibilité au travail, depuis 2010, on recherche l'épanouissement et la qualité de vie au travail. Alors sur le plan managérial, les dirigeants et les DRH investissent de plus en plus dans des séminaires, des incentives ou autres team building pour fédérer leurs équipes où elles font appel à des psychologues et des coachs professionnels. Mais est-ce que cela suffit ? Que peut-on appliquer en amont pour prévenir et réduire les risques de santé liés au stress et se sentir bien au travail ? Pour apporter des éléments de réponse, Sylvie Coste est avec nous ce soir. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Axel.
Sylvie Coste, vous dirigez le cabinet Human Potential Partner à Lyon, donc à Charbonnières-les-Bains. Vous êtes consultante en ressources humaines, en stratégie des organisations, mais aussi consultante en recrutement depuis plus de 20 ans, et notamment au sein de groupes industriels internationaux. Alors, vous allez justement un petit peu nous éclairer sur l'état du bien-être au travail actuellement. Alors, est-ce qu'il est le bien-être est rare en 2019 ? Quelles sont les difficultés qui ressortent le plus lorsqu'un salarié ou une entreprise vous consulte pour améliorer leur qualité de vie au travail ?
Eh bien, je vais parler de l'épuisement au travail, qui va donc se manifester souvent par des états de burn-out, bore-out ou brown-out. On a différentes variantes maintenant de l'épuisement au travail. Et on va dire que ces phénomènes-là sont la résultante d'un certain nombre de paramètres qui tiennent à la fois de l'organisation, mais pas que. Bien entendu.
Alors, il existe des formations aujourd'hui qui sont destinées aux managers, aux directions d'entreprise, sur l'organisation du travail et sur les relations de travail. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les méthodes que vous recommandez ?
Alors, moi, ce que je recommande, c'est d'abord, en tant que consultante, ce que je vais proposer à mes clients, c'est d'abord un contact direct avec le dirigeant. Parce qu'il importe de connaître véritablement la culture de son entreprise, l'intention qu'il porte aussi dans sa création de valeur, comment est-ce qu'il fonctionne avec ses équipes, comment est-ce qu'il voit aussi le sens qui est donné au travail au niveau des équipes qu'il anime. Évidemment, de replacer son intention par rapport au contexte, à un contexte de marché, un contexte de concurrence, à un contexte international ou national. Et là, en fait, c'est un champ très holistique qui va être, exploité, ou en tout cas on va le questionner sur véritablement tous les paramètres qui viennent impacter la conduite de son entreprise, et au-delà de ça, comment ça se traduit au quotidien au niveau des équipes et au niveau des personnes qui travaillent dans son entreprise. Donc il y a une écoute qui est importante de l'équipe dirigeante. Il y a aussi de prendre en compte justement cette équipe dirigeante et de voir quelles sont ses méthodes d'interaction avec les équipes. Est-ce qu'ils sont formés ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien par rapport à ça ? Et comment est-ce qu'ils évoluent par rapport aux nouvelles techniques et aux nouvelles technologies aussi qui se déploient ? C'est-à-dire que maintenant, le travail n'est plus un travail posté. C'est un travail qui va être de plus en plus nomade, de plus en plus mobile, qui va générer du stress très souvent aussi. Et c'est tout cela que je vais explorer avec eux par une technique de diagnostic, mais qui va être souvent exploratoire, soit par des entretiens avec les équipes, pour faire remonter les problématiques qui peuvent avoir été soulevées. C'est vraiment une écoute approfondie, un questionnement, en fait, et essayer de poser un curseur de où se situe chaque personne, les personnes dans leur curseur de bien-être aussi, par rapport aux tâches qui leur sont données, par rapport aux missions sur lesquelles ils sont attendus et aux résultats qui sont attendus aussi. En termes de délai, parce que souvent la réactivité est importante. Et puis, est-ce que les compétences sont là ? On se rend vraiment compte que chaque personne qui agit en entreprise, elle doit faire appel à son savoir-être, son savoir-faire et son pouvoir-faire. Et tout ça est combinatoire, en fait. Donc, on va avoir besoin de tester quel est le niveau de responsabilité de chacun pour pouvoir justement contribuer à la performance, mais en même temps, est-ce que ça tient de la ligne managériale, des méthodes, ou est-ce que ça tient au fait que peut-être les collaborateurs peuvent avoir aussi besoin d'un soutien dans le développement de leurs compétences, dans leur champ d'information, dans la communication qui est faite. Tout dépend de la problématique qui est posée aussi par l'entrepreneur, en fait, hein, lui aussi. Et là, après, on peut travailler sur la vision, la mission de l'entreprise, son ambition, sa stratégie. Et là, après, j'accompagne les gens en séminaire, des séminaires collectifs. Mais au départ, il faut vraiment une relation proche de la direction, parce que c'est de là que partent véritablement les orientations et comment on co-construit avec les collaborateurs.
Alors, vous avez raison, effectivement, de parler de la découverte, finalement, de chaque individu hein, au sein de son lieu de travail, savoir son savoir-être et son savoir-faire. Effectivement, aujourd'hui, on assiste bien souvent à la montée d'un salarié ou d'un cadre à un poste de manager parce qu'il a certainement mérité ce poste hein, pour ses missions réalisées. Mais la personne n'est pas forcément... Elle est promue, du coup, mais elle n'est pas forcément les cartes en main ou la personnalité qui... va permettre de manager, finalement, de façon juste.
Je vous rejoins par rapport à ça. Moi, il m'est arrivé dans mon expérience en tant que salarié, essentiellement, de gérer vraiment la mobilité et les carrières. Et très souvent, ce sur quoi on insistait, c'était de pouvoir accompagner les personnes qui sont identifiées comme des experts par rapport à leur métier. Hein, ce sont des gens extrêmement compétents. Et souvent, l'erreur qui est faite en termes de management et en termes de direction et de stratégie ou de politique RH, c'est de récompenser les personnes en leur donnant un poste de management. Or, c'est pas forcément là que ces personnes-là vont véritablement s'épanouir, parce que elles sont plus attirées par la technique et elles n'ont pas forcément tous les atouts relationnels. Alors, c'est sur ce champ-là aussi que moi j'interviens
pour former ces équipes
et pour former les gens à l'agilité relationnelle, tout à fait. Mais ça tient d'abord par une connaissance, enfin en tout cas l'important c'est d'abord de se connaître, de connaître ses moteurs, de connaître ses comportements et ses fonctionnements naturels, et puis d'apporter un soutien à ces personnes qui sont promues, surtout elles ont toujours à cœur de bien faire, bien évidemment.
Donc là, vous avez parlé de la personnalité des managers hein, face à leurs équipes. Donc il y a effectivement des problèmes relationnels hein, qui peuvent mener à mal-être au travail. Il y a également, donc, on l'a dit, la surcharge de travail, parfois la révolte. Quelqu'un qui aurait osé dire non à sa hiérarchie peut soudainement se retrouver un peu mis au placard, hein, pour reprendre cette expression qui est assez courante. Et finalement, le salarié, si lui essaye justement de s'affranchir, hein, de cette pression, il risque de freiner son parcours en interne. Mmh. Bien souvent, c'est quelque chose que l'on a pu observer. Comment peut-on, du coup, se protéger de cette mise au placard ?
Alors, la mise au placard, elle n'est pas systématique. On va dire qu'il y a plein d'autres moyen de décourager quelqu'un, hein, pas forcément la mise au placard, mais quelque part, on va se heurter à une problématique de plus ou moins de harcèlement. Ça peut aller jusque-là, en fait. Et en tout cas, le fait que certains managers découragent leurs collaborateurs, c'est effectivement quelque chose qui est assez courant. Mais il y a aussi, heureusement, des managers qui savent très bien motiver leurs équipes, fort heureusement, et ça me réjouit d'autant plus. Mais au niveau de prévenir justement cette mise au placard, moi je citerais qu'il y a des sources et le droit social est construit aussi pour permettre aux gens de pouvoir aussi se défendre dans certaines situations. Il faut apporter la preuve, en fait, aussi, en tant que salarié, hein, de tout ça. Donc, on peut
là,
avoir...
Vous parlez du harcèlement moral. Hein.
Alors, le harcèlement moral, mais aussi, la mise au placard. C'est-à-dire que vous avez des entretiens annuels qui sont faits pour ça, aussi, hein, pour pouvoir exprimer... ça ne devrait pas se faire qu'une fois par an, mais le salarié est amené à ce moment-là à faire un point de sa situation, de comment il se sent dans son poste. Est-ce que il y trouve un confort? Est-ce qu'il y a du challenge? Est-ce que ça le motive suffisamment? Est-ce que ça correspond à toutes ses compétences? Et aussi, il a à cette occasion-là l'occasion d'exprimer ses aspirations. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Comment va se passer l'année prochaine? Quels sont mes objectifs, etc. Donc, il faut bien se dire que là, à ce moment-là, les personnes sont amenées à discuter de leurs objectifs. C'est négociable. L'entreprise qui ne souhaite pas que son collaborateur négocie ses objectifs, c'est une situation particulière. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être que le collaborateur n'a pas lieu de s'en prendre à son organisation pour essayer d'être aidé, mais d'aller chercher des appuis un peu extérieurs. Alors, au sein de l'organisation, il faut bien quand même se dire qu'il y a il y a des organes représentatifs des salariés. Il y a l'ancien comité d'entreprise et le comité, les délégués du personnel. Bon, maintenant, on les appelle autrement, le comité social et économique, hein, qui a fusionné. Mais il y a aussi le CHSCT qui est là pour prendre en compte aussi les demandes des salariés qui sont éventuellement, qui ont pu signaler une souffrance particulière. Et puis, il ne faut pas oublier le médecin du travail également, qui est là pour justement valider l'aptitude des personnes au travail. La situation du médecin du travail, elle est un peu particulière aussi parce qu'il est tenu aussi et il est payé par l'entrepreneur et l'entreprise. Donc il est un peu à cheval entre le collaborateur et donc son patient et l'entreprise elle-même. Donc si le collaborateur n'obtient pas satisfaction auprès du médecin du travail, à ce moment-là, il a aussi le recours de demander une aide à son médecin traitant, tout simplement. Si la situation est insupportable, il peut demander un arrêt de travail, bien évidemment. Et ça, c'est ça à force de preuves aussi sur des aspects un peu répétitifs de pression au travail, bien évidemment.
Alors là, on va parler surtout des risques psychosociaux,
oui. Hein,
parce que je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agit. Les manifestations du stress au travail peuvent être physiques. On sait maintenant qu'il y a des signes tels que la détresse respiratoire, le vertige ou les tensions musculaires qui viennent s'ajouter du coup aux éléments psychologiques, l'irritabilité, l'anxiété, la dépression ou encore des complots, hein, l'inhibition, l'agressivité, les troubles du comportement alimentaire. Donc tout ça fait partie des risques psychosociaux qui sont des symptômes variés et complexes. Donc par rapport à ça, est-ce que vous avez parlé de l'inspection du travail, de la médecine du travail, est-ce que les choses ont avancé? Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à ces éléments, on peut, vous l'avez dit, avec la médecine du travail, mais avec le médecin traitant, on peut avoir des arrêts de travail pour ces raisons-là?
Ça, oui, bien sûr.
Pour ces causes-là, pardon.
Oui, une personne
qui
est en burn-out va avoir des problèmes de sommeil souvent et d'insomnie. On peut avoir des ulcères à l'estomac, des choses comme ça, effectivement, comme vous le relatez, tout à fait.
On peut faire un lien maintenant.
Ça devient ça reste toujours une question difficile et délicate. Il appartient toujours aux collaborateurs et aux salariés d'apporter la preuve que les manifestations physiques, physiologiques et de santé sont liées à son travail. Ça veut dire qu'il faut pas négliger le fait que certains salariés reçoivent parfois des mails qui sont typiquement des mails qui sont avec des propos déplacés, une argumentation ou quelque chose aussi, peut-être une altercation verbale, des choses comme ça. À un moment donné, quand il y a une répétition de ces faits-là, la personne peut aller saisir un avocat.
Là, on a des écrits.
Simplement.
Quand on a des écrits.
On a des écrits, on a des preuves. Ou des preuves enregistrées. Hein.
Naturellement.
Je dirais que tout simplement, maintenant, tout le monde a un iPhone. Et quand on est victime de ce genre de comportements qui sont des comportements inappropriés, soit la personne peut aussi en référer aux ressources humaines. Évidemment qu'elles peuvent le service ressources humaines peut être saisi de la question et logiquement il y a un débriefing qui est fait avec le manager ou ça peut être entre collègues. Il faut bien se dire que le harcèlement n'est pas
forcément dans le sens de la hiérarchie.
Non, pas du tout. Il peut y avoir des pressions qui sont d'autres ordres en fait, hein, tout à fait. Donc il faut établir la preuve, ça c'est important, et pour ça, il ne faut pas hésiter à constituer un dossier quand on est dans ce cas-là, tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier la responsabilité de l'entreprise, pénale aussi, hein, puisque il tient à c'est vraiment la responsabilité pénale qui est engagée lorsqu'il y a, on a vu le drame de Orange, des suicides au travail. Forcément, c'est la responsabilité pénale de l'entreprise qui est là à ce moment-là mise en cause. Hein. Donc, l'entreprise a obligation de protéger les salariés
et
d'assurer la protection des salariés. Alors, j'ai plus le texte exact tel qu'il est décrit dans la loi, mais voilà, ça, c'est une obligation, en fait.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur, justement, en amont de ces soucis-là, hein, de bien-être au travail, notamment sur l'organisation. Vous êtes Sylvie Coste, coach professionnelle, hein, et formée à la programmation neuro-linguistique depuis plusieurs années.
Oui.
J'aimerais qu'on parle justement des outils que vous utilisez, en sachant, en tant que coach, hein, en sachant que donc aujourd'hui, on dit qu'un peu moins de la moitié des salariés avouent consulter ses emails ou répondre à un appel professionnel en dehors du temps de travail ou pendant ses congés. Donc là, il y a un vrai souci de droit à la déconnexion qui n'est pas respecté. Mmh. Autre exemple, l'accélération de la transformation des métiers. 2/3 des salariés pensent que les modes et méthodes de travail ont beaucoup changé au cours des 10 dernières années. Et enfin, la moitié des salariés trouvent que leurs compétences ne sont pas reconnues et qu'ils ne sont pas écoutés par leur management.
Ouais.
Alors, vous, en tant que coach professionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Sur quels éléments est-ce qu'on peut s'appuyer pour améliorer cette organisation ?
Alors, vous repreniez le texte concernant le droit à la déconnexion. Ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est un vrai progrès, parce que les choses sont arrivées petit à petit, je dirais. Les habitudes d'être complètement connectées, pratiquement 24 heures sur 24, ont amené effectivement justement à des problématiques de santé au niveau du travail. Et ça, je trouve que c'est une vraie avancée que... au moins pour le salarié, il puisse se retrancher sur ce droit à la déconnexion. Donc l'idée, c'est... parfois, ce que j'ai pu observer, c'est aussi du surengagement des personnes dans leur travail. Et ça, c'est un des premiers premier signaux qui va nous aiguiller vers un possible burn-out par la suite. Donc ça, l'entreprise a une responsabilité d'anticiper et d'observer. Donc le manager, moi, ce que je préconise, justement dans mes séminaires sur le leadership et quand j'accompagne les compétences managériales, c'est vraiment d'être des managers de proximité, d'être vraiment présent et d'être à l'écoute.
Se détacher des objectifs, déjà, peut-être.
Oui.
On leur donne.
Absolument. De prendre un temps pour véritablement accorder une priorité à la relation, en fait. Et donner cette priorité à la relation fait que, justement, le collaborateur va se sentir écouté, compris et considéré. En fait, on s'est rendu compte en tant que coach que les personnes qui sont le plus en souffrance sont souvent des personnes qui sont entre guillemets oubliées, donc placardisées effectivement, et que ça c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de nier l'existence de quelqu'un. Et ça a un impact énorme sur la santé des personnes.
C'est violent.
Oui, c'est très violent. C'est très violent. Alors, on parle effectivement du stress ou des personnes qui sont agressives. Évidemment que c'est quelque chose qui est violent aussi. Mais alors, le fait de ne pas être considéré, de ne pas être écouté, d'être complètement ignoré, a probablement des effets aussi dévastateurs que l'agressivité pure ou la violence réelle, quoi.
Et la programmation neurolinguistique, la fameuse PNL, à quel moment vous l'utilisez ?
Alors, je l'utilise justement pour déprogrammer, en fait, éventuellement des situations qui ont marqué les collaborateurs, les salariés, des situations pénibles, en fait. On a une possibilité de revenir sur une situation difficile, douloureuse, et par les outils de PNL.
Vous rejouez la scène avec la personne ?
Rejouer et,
en quelque sorte.
Et réimprimer, en fait, une, comment dire, des perceptions, des émotions positives qui vont venir neutraliser, en fait, le phénomène qui était à la base, en fait, douloureux, difficile. Donc ça va être effectivement un travail que je peux mener en individuel auprès des personnes qui me le demandent. Et puis, il y a aussi comment est-ce qu'on peut cultiver à son propre niveau la pensée positive, rechercher toujours un point ressource. En fait, ça aussi en PNL on le fait énormément, c'est-à-dire retrouver les moments agréables qui vont nous permettre de nous ressourcer, en fait. Et c'est un exercice mental, mais plus on l'exerce, plus on devient à l'aise avec la pratique, et plus on sait que c'est un moyen aussi de lutter contre le stress.
Donc là, c'est pour ce qui est du coaching individuel, principalement.
Oui.
Au niveau des équipes, je voulais vous demander ce que vous pensiez du management participatif. On entend de plus en plus parler de cette formule qui pourrait peut-être être la formule idéale.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Alors, le management participatif, moi, c'est une des théories que j'utilise et que je développe beaucoup, effectivement, dans mes formations. En réalité, il n'y a pas qu'un seul mode de management qui va être efficace. Je dirais que vous avez des situations d'urgence où il est important d'être directif. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être directif parce que voilà, il y a un danger, il y a quelque chose qui doit être traité très très rapidement. Donc je n'enferme pas en fait le management selon une seule voie. C'est-à-dire que ce que je prône, moi, c'est un management qui va être adapté à chaque situation et à chaque niveau de développement de la personne qu'on a à manager, justement. Parce que c'est une personne qui a besoin de plus ou moins d'autonomie, de plus ou moins de liberté et de responsabilité, et qu'en fait, elle gravit des échelons et des escaliers, en fait, dans sa croissance personnelle et dans sa croissance au niveau de son métier. Et on va avoir besoin de plus de liberté au plus on est, je dirais, efficace, expert dans son domaine. Et si vous répondez avec un mode très, je dirais, paternaliste, un peu trop enseignant vis-à-vis d'une personne qui est extrêmement autonome, extrêmement responsable, il va être très très vite démotivé, en fait. Ça va pas être comme ça qu'on va pouvoir obtenir de lui le meilleur et la performance. En revanche, si vous avez une personne qui a juste besoin, en fait, d'un petit coup de pouce pour vraiment déployer ses ailes, et donner toute sa performance. Là, à ce moment-là, on va avoir besoin d'encouragement, de valorisation, de lui donner confiance, etc. Donc, en fait, moi, ce que je prône, c'est plus une question de délivrer le bon style de management par rapport à la personne. Ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau collectif, de favoriser la communication, l'information partagée, etc. Et le mode participatif, bien évidemment...
Pour la complémentarité.
Pour la complémentarité, mais à ce moment-là, au niveau de l'équipe et au niveau de l'intelligence collective, on va dire aussi,
à
ce moment-là.
C'est vrai qu'on a autant besoin du directeur financier, le DAF, que du directeur des ressources humaines, à chaque moment. Mais effectivement, je pense que vous, de votre côté, le DRH a quand même peut-être la priorité. Si on veut vraiment rester sur... le management le plus juste, le plus équilibré, le plus sain possible.
Ce que vous entendez par là, c'est le rôle du DRH par rapport aux méthodes à mettre en place. Oui, certainement, évidemment. Mais tout ça tient aussi d'une collaboration et d'une entente avec le directeur général, parce que c'est vraiment l'entreprise qu'il dirige, elle est aussi à son image. Donc c'est vrai que la collaboration et le binôme doit vraiment bien fonctionner par rapport à ça, pour pouvoir avoir à cœur de déployer le plein potentiel des personnes et des équipes.
J'ai une dernière question à vous poser concernant justement la qualité de vie au travail. Est-ce qu'en 2019, le mi-temps et le temps partiel est enfin admis et reconnu en France, pour les femmes comme pour les hommes, qui souhaitent s'aménager plus de temps pour leur vie de famille ?
Alors, je dirais que ça tient de l'organisation elle-même, mais de plus en plus, je trouve qu'on a, je dirais entre guillemets, un travail libéré avec... ce qu'on appelle beaucoup de gens qui sont devenus des slasheurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est qu'on peut avoir plusieurs activités, on peut être impliqué dans différents métiers aussi. Le travail nomade aussi permet de juxtaposer plusieurs métiers. On n'aura plus un métier linéaire ou une croissance linéaire de notre
carrière. Une carrière avec une voie tracée.
C'est plus du tout vrai, ça. Non, ça n'est plus du tout vrai. Donc moi, je crois beaucoup au fait que chaque personne est à même de gérer son employabilité, de trouver le meilleur système pour lui. Et je ne vais pas placardiser, en tout cas, être maladroite par rapport au fait que, bon, oui, il y a des personnes qui préfèrent un CDI plein temps, et puis voilà.
Pour la sécurité.
Pour la sécurité, travail, pour d'autres choses, puis parce que voilà, c'est leur confort et puis ils le souhaitent. Pour d'autres personnes, ils vont aimer le changement et ils vont aimer positionner plusieurs métiers et les juxtaposer. Donc en fait, tout est permis. Chacun a le choix, en fait, de tracer sa propre route. Bon, alors j'entends bien souvent que, mais oui, mais j'ai pas le choix, j'ai ma famille, j'ai la sécurité à apporter à toute ma famille, etc. Je crois que c'est un petit peu un leurre de penser qu'on n'a pas, le choix. On a tous les choix. Souvent, on se dit qu'on n'a pas toutes ces ressources, mais pourtant, l'univers est abondant et on ne voit pas toutes les ressources possibles qui sont à disposition. Et pour ça, effectivement, les personnes peuvent avoir besoin d'une aide externe, comme d'un coach, comme d'un médecin, comme d'un thérapeute, pourquoi pas, pour aller mieux. Tout à fait.
Et le télétravail est aussi une solution, en tout cas pour pouvoir équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est quelque chose qui était encore difficile il y a quelques années, mais qui progresse.
Tout à fait, tout à fait. Et fort heureusement, je pense que de toute façon, les sociétés ont bien compris que la liberté... par rapport au temps de travail, par rapport au trajet aussi, quand vous êtes dans des grandes métropoles, c'est tellement contraignant que l'avantage est à donner beaucoup de liberté par rapport à toutes les techniques et les matières, les façons de travailler. Oui, tout à fait, heureusement.
Mais en tout cas, souhaitons que les dirigeants d'entreprises continuent à être sensibilisés sur toutes ces questions de santé au travail. Je vous remercie Sylvie Coste de nous avoir éclairé sur ce sujet qui concerne tous les actifs à tout âge, du début à la fin de carrière.
Et merci à vous de m'avoir reçu et sollicité pour ce sujet. Merci beaucoup.
Merci à vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un dernier numéro de Parlons Psycho. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Radio Calade.
câlin.